Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Charline et les amis. À demain. Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous. Attention à la fermeture des portes et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du mardi 31 mai avec le journal de Sébastien Le Génie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne. Bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence ce soir avec un sentiment de peur.
La peur de reprendre le train. Témoignage aujourd'hui à la barre des victimes de la catastrophe ferroviaire de Brétigny, 9 ans après ce tragique déraillement qui a fait 7 morts et des centaines de blessés. Le tribunal leur a donné la parole aujourd'hui, compte rendu d'audience dans un instant. Coupé à 90% le robinet du pétrole russe en direction de l'Europe, une décision historique pour Emmanuel Macron qui se félicite de cet accord passé entre les 27 à Bruxelles, on l'entendra. À suivre aussi le portrait de Marie Buisson, syndicaliste à la CGT et que Philippe Martinez, l'actuel secrétaire national, aimerait lui voir succéder. Nous irons au Canada qui envisage d'interdire les armes de points, des conseils dans le journal pour arrêter de fumer en cette journée mondiale sans tabac, et puis du tennis avec un duel Alcaraz-Zverev qui tient toutes ses promesses.
À 18h15, un jour dans le monde avec la conclusion, vous l'évoquiez à l'instant, de la réunion des chefs d'État européens sur le 6e train de sanctions contre la Russie. On verra à quel point cet accord sur le pétrole, c'est une manière de plier vraiment la Russie de Poutine ou de plier quand même nous-mêmes un peu devant la Hongrie qui a su préserver ses intérêts. À 19h20, c'est le téléphone sonne et puisque c'est, vous l'avez évoqué aussi, la journée mondiale sans tabac, c'est de prévention dont on va parler ensemble ce soir parce que le dépistage systématique du cancer du poumon fait son chemin. Pourquoi ne pas venir tous les ans faire un scanner exactement comme on fait des dépistages à très grande échelle pour les cancers du sein, du côlon ou du col de l'utérus? On verra pourquoi certains scientifiques sont partagés, on verra ce qu'on y gagne. À vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Ils sont donc venus raconter leur traumatisme à la barre.
Une quarantaine de rescapés, de blessés ou de proches des victimes décédées, simples voyageurs ou seulement présents sur le quai de la gare ce 12 juillet 2013 quand le train intercité Paris-Limoges a déraillé en gare de Brétigny-sur-Orge faisant 7 morts et des centaines de blessés. Le procès de cet accident a commencé il y a un mois et demi devant le tribunal correctionnel d'Evry. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Et c'est la première fois, Ariane, que les victimes prenaient la parole, toujours très affectées, 9 ans après les faits.
Oui, les récits commencent tous de la même manière, ceux d'une vie bien réglée, les allers-retours à Paris pour le travail, la satisfaction d'attraper ce vendredi-là le train de 16h53 et tout bascule. C'était une petite secousse, se souvient un passager. Et puis, vous ne savez plus où vous vous situez dans l'espace, vous vous dites que c'est fini. Je ressens que le train n'est plus sur les rails, raconte un autre. Tous témoignent de cris, de bagages qui volent, les corps qui heurtent les sièges, des blessures physiques plus ou moins graves, mais surtout de nombreuses séquelles psychiques. La culpabilité d'avoir survécu. Ludovic, voiture 4, place 67. J'ai eu de la chance, mais je n'étais pas assis à ma place. Peut-être qu'à la mienne, il y avait quelqu'un et que... Il s'interrompt. Pourquoi eux et pas nous, s'interroge une autre passagère dans une lettre qu'elle fait lire à l'audience. 9 ans après, elle n'a pas eu la force de venir. Je travaille depuis 2 mois à aller dans une gare, puis sur le quai, écrit-elle. J'ai réussi il y a 2 semaines à monter dans un train à l'arrêt. Prochaine étape, je serai dans le train qui roule. Bientôt, j'espère. Avant de signer, Dominique, voiture 2, place 32.
Ariane Grissel, en direct du tribunal d'Evry. Vous avez pu recueillir également ce témoignage. À la sortie de l'audience, celui de Philippe, il était dans la voiture qui est montée sur le quai ce jour-là. Il dit avoir longtemps hésité avant de venir à la barre du tribunal.
J'ai toujours dit que je témoignerais, mais j'ai longtemps hésité à vraiment venir. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression que c'était un témoignage de plus et qu'il n'y avait pas de... Le train a déraillé, c'est un fait. Et puis quand on écoute un peu ce qui se dit, on a l'impression que c'est la faute de personne. Il y a eu 7 morts, des dizaines de victimes, et c'est la faute à pas de chance. Moi j'ai des enfants qui prendront le train un jour tout seul et j'ai pas envie qu'ils revivent ça et j'ai pas envie que quelqu'un d'autre vive ça. Donc il faut qu'on témoigne maximum pour que ça soit pris en compte et que ça se renouvelle plus. Il faut pas qu'on se contente de se dire « Ah c'est la faute, à pas de chance ».
Voilà,
c'est
l'audition. L'audition des parties civiles doit durer jusqu'à lundi prochain. SNCF Réseau, la SNCF et un cadre comparaissent pour homicide involontaire et blessure involontaire jusqu'au 17 juin prochain. Au chapitre judiciaire encore de la prison avec sursis dans l'affaire d'Angers, la chute d'un balcon en 2016. 2016 avait tué 4 étudiants. 3 des constructeurs du bâtiment ont écopé de sursis. L'architecte, en revanche, a été relaxé, tout comme le conducteur de travaux. Le parquet avait requis 4 ans de prison ferme, dont 2 avec sursis.
Les dirigeants européens se félicitent des dernières sanctions prises contre Moscou.
Les 27 se sont mis d'accord pour se passer à 90% du pétrole russe d'ici à la fin de l'année, afin de tarir le financement de la guerre menée par le Kremlin en Ukraine. La Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, toutefois très enclavées, pourront continuer à s'approvisionner. Un compromis qui fait la part belle à Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, mais pas question de bouder son plaisir. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Notre correspondante à Bruxelles, Emmanuel Macron, s'est réjoui cet après-midi de cet accord.
Oui, notre objectif est toujours le même, a déclaré le président français, stopper la guerre sans y participer, en soutenant d'une part l'Ukraine et en maintenant la pression sur Moscou. Emmanuel Macron qui défend donc le compromis arraché cette nuit sur cet embargo pétrolier.
Il y a 2 mois, personne ne pensait envisageable les sanctions sur le pétrole russe. Beaucoup des dirigeants étaient devant vous en disant « jamais on touchera au pétrole et au gaz, c'est sûr ». C'est pourquoi ce 6e paquet est historique. Et les mesures d'exemption qui ont été décidées, elles l'ont été pour les États qui sont très dépendants et dont les raffineries ne peuvent pas être converties trop vite et qui n'ont pas d'accès à la mer.
Des dérogations spécifiques et limitées dans le temps, a-t-il insisté. L'accord ne fixe pourtant aucune date butoir et doit encore être négocié avec la Hongrie, principal pays bénéficiaire des exemptions et qui s'en félicite d'ailleurs. Les familles peuvent dormir paisiblement. Nous avons écarté l'idée la plus farfelue qui soit, se réjouit ce soir Viktor Orban dans un message vidéo sur Facebook. Alors après l'embargo décidé sur le charbon, puis maintenant le pétrole, les 27 décideront-ils d'en décréter sur le gaz russe? Il ne faut rien exclure. Tout dépend de la situation sur le terrain, a répondu Emmanuel Macron. Un sentiment loin d'être partagé par certains de ses partenaires, sans doute échaudé par les difficiles négociations sur le pétrole et plus dépendant de Moscou que la France. L'Estonie, l'Autriche sont favorables à une pause. Le gaz, c'est beaucoup plus compliqué. Arrêtons-nous là pour le moment, a aussi indiqué le Belge Alexander De Croo.
Angélique Bouin en direct de Bruxelles avec Sandrine Malon, le chef de l'État français qui a aussi condamné les propos des autorités russes à l'égard du journaliste Frédéric Leclerimov, tué hier en Ukraine, considéré comme un mercenaire étranger par Moscou. Propos inacceptables pour le chef de l'État. Emmanuel Macron qui a ensuite pris la direction de Cherbourg pour se rendre au chevet du centre hospitalier public. Il est en train de s'entretenir avec tous les acteurs de la santé, notamment sur la problématique des soins d'urgence. 20% des établissements français sont touchés par des fermetures ou des délestages. Principale annonce en ce, pour le moment, une mission flash d'un mois créé sur les soins non programmés, une sorte de boîte à outils au niveau national. Si elle était élue, elle serait la première femme à diriger la CGT. Elle, c'est Marie Buisson, syndicaliste jusqu'ici méconnue du grand public, apparue aujourd'hui sur le devant de la scène. C'est la candidate que s'est choisie Philippe Martinez pour lui succéder, l'actuel patron de la CGT qui a fait savoir qu'il quitterait la tête de la Confédération en mars 2023. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Philippe Martinez souhaite moderniser en quelque sorte le visage de la CGT. Alors que sait-on de cette syndicaliste Marie Buisson?
Eh bien pour vous répondre, il a fallu un peu creuser, hein. Chercher, c'est qu'elle n'est pas non plus la plus connue dans l'organisation. Le choix porté sur elle surprend, y compris en interne. Marie Buisson, 54 ans, prof en lycée professionnel à Montrouge en région parisienne, en charge jusqu'ici de la branche éducation de la CGT, alors que Philippe Martinez vient lui de la métallurgie, a priori plus le terreau d'implantation historique du syndicat. Marie Buisson, qui serait, vous l'avez dit, la première femme a dirigé l'organisation depuis sa création, tenez-vous bien, en 1895. Bernard Thibault, en 2012, il y a tout juste 10 ans, avait tenté déjà de placer une femme, Nadine Prigent, tout en haut de la pyramide, Porte de Montreuil, mais sans y parvenir, sa proposition avait été rejetée. La celle de Philippe Martinez n'a pas rencontré la même opposition ce matin, mais certains ne comprennent pas le côté précipité de l'annonce. Le profil de Marie Buisson, qui ne fait pas non plus l'unanimité, elle qui représente la CGT au sein d'un collectif baptisé Plus jamais ça, lequel réunit syndicats, assos et ONG afin de concilier écologie et social. Plusieurs fédés de la CGT sont opposés à l'appartenance du syndicat à ce collectif.
Maxime Debs, un portrait retrouvé sur franceinter.fr. Un nouveau record pour l'inflation en France. Au mois de mai, les prix ont augmenté de 5,2% par rapport à l'an dernier. Ils accusent General Electric d'avoir triché avec le fisc français. L'intersyndicale de GE à Belfort a déposé plainte aujourd'hui pour blanchiment de fraude fiscale. Selon les plaignants, le géant industriel américain américain fait échapper plus de 500 millions d'euros du site Belfortin vers la Suisse et l'État américain du Delaware, où la fiscalité est plus avantageuse. General Electric affirme qu'il respecte les règles fiscales des pays dans lesquels l'entreprise opère. C'est l'une des conséquences de la tuerie d'Uvalde la semaine dernière au Texas. 19 enfants y ont trouvé la mort. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé hier un projet de gel national de la possession d'armes de poing. Les précisions à Montréal d'Hélène Jouan.
Gel national des armes de poing, on estime qu'il y en a environ 1 million en circulation au Canada. Justin Trudeau a créé la surprise en annonçant ce renforcement sans précédent du contrôle des armes à feu. Officiellement, rien à voir avec la tuerie perpétrée il y a quelques jours au Texas qui a relancé le débat sur les armes aux États-Unis. Le premier ministre canadien entend surtout réagir à la flambée de violence qui frappe les grandes villes canadiennes comme Montréal ou Toronto. Mais les associations de victimes ne s'y sont pas trompées. Toutes ont accueilli avec satisfaction ces mesures qui, disent-elles, montrent notre désir commun de ne jamais emprunter la voie de notre voisin du Sud. Le gouvernement canadien a par ailleurs annoncé que le programme de rachat des armes d'assaut, prohibé depuis plus d'un an, serait désormais obligatoire et non plus laissé au bon vouloir de leurs propriétaires. Enfin, Ottawa promet une loi dite du drapeau rouge qui permettra de révoquer le permis d'armes à feu pour tout individu impliqué dans des violences conjugales. Ces mesures législatives devraient être adoptées dès l'automne prochain. À Montréal, Hélène Jouan, France Inter.
Et maintenant cette question, comment finir une bonne fois pour toutes avec la cigarette? Vous êtes sans doute des centaines de milliers à vous poser la question et nous allons peut-être pouvoir vous aider. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, France Inter en effet a lancé un appel à témoignages sur son site internet. 600 ex-fumeurs ont répondu pour raconter pourquoi et comment ils avaient arrêté de fumer. Arrêt du jour au lendemain, en plusieurs fois, avec beaucoup d'eau ou beaucoup de bonbons. Manon Vautier-Cholet, vous avez lu ces témoignages, bonsoir.
Bonsoir.
Alors que peut-on en retenir?
Alors, sans surprise, ça a été difficile pour la plupart de ces ex-fumeurs qui témoignent, avec des sautes d'humeur, des envies folles de cigarettes et parfois une très grosse baisse de morale. Pour éviter tout ça, Guillaume, lui, s'est préparé mentalement pendant des mois.
J'ai fonctionné donc en me fixant une date longtemps à l'avance. Ce jour-là, tu arrêteras. Et en me fixant aussi des points d'étape réguliers avec mon médecin traitant que j'allais voir quasiment que pour ça, pour me fixer des échéances.
Et depuis son arrêt, il a pu se mettre à l'apnée. Le sport, justement, c'est ce que Tristan a choisi pour compenser le manque. C'était les feuilles de framboisier pour Mélissa et les choupa choups pour Marion.
Pour compenser le fait de tenir une cigarette entre les doigts, le truc rapidement s'est imposé d'avoir une choupa choups. D'autant que l'avantage, c'était que au boulot, par exemple, je pouvais avoir ma choupa choups.
Dans l'appel, les ex-fumeurs nous racontent également le déclic qui les a poussés à arrêter, la cigarette de trop pour Maëlle ou l'odeur pour Julie. Michel, lui, a arrêté sur un coup de tête en pleine séparation.
J'ai jeté les cigarettes dans sa voiture avec cette phrase qui fait rire aujourd'hui tous mes amis, même mon ex, c'est « Puisque tu pars pour jamais revenir, elles aussi ».
Michel qui n'a jamais refumé en tenant grâce à des groupes de soutien sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'il conseille justement aujourd'hui à tous ceux qui veulent arrêter de fumer.
Voilà, des choupa choups ou une bonne séparation, Manon Cholet-Vautier. Retrouvez donc sur franceinter.fr ces conseils.
Allez, on file à Roland-Garros pour terminer, Sébastien.
Avec l'une des grosses affiches du jour, l'Allemand Zverev, tête de série numéro 3 contre le Prodi espagnol Alcaraz. Bonsoir Jérôme Val.
Bonsoir.
L'espagnol est dominé pour le moment, Jérôme. Hein.
Oui, l'avantage à Alexander Zverev, le numéro 3 mondial, qui mène une manche à zéro pour l'instant, 6-4 dans la première manche. On est à 5-4 pour Alexander Zverev dans la deuxième manche. Il sert pour emporter le gain de cette manche et il a eu deux balles pour remporter cette manche et à chaque fois Alcaraz les a sauvés. Alcaraz qui est en train de mettre un petit peu le feu là sur le central, le court central, parce qu'il a eu un début de match très très compliqué, un peu méconnaissable, le jeune espagnol de 19 ans. Et il a commis déjà 30 fautes directes depuis le début de cette partie. C'est énorme pour un joueur comme cela. Et face à lui, il a Alexander Zverev qui, lui, est étonnant. Hein. Il montre parfois des signes d'agacement, mais là, pas du tout. Il est relativement serein, Alexander Zverev. Et en tout cas, il mène une manche à 0, 5-4, toujours dans cette deuxième manche. 40 partout sur son jeu de service. À noter qu'on connaît déjà, Sébastien, l'affiche d'une première demi-finale dans le tableau féminin avec les qualifications à la mi-journée de Martina Trevisan, l'italienne, face à Coco Gauff, l'américaine. Ce sera une demi-finale inédite entre deux joueuses qui n'ont jamais atteint le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem. Il y aura donc samedi sur ce court central une finaliste inédite.
Jérôme Val en direct de la Porte de Saint-Cloud. L'autre affiche du soir, on vous en parle depuis hier, c'est bien sûr Nadal Djokovic à partir de 21h sur Amazon Prime. uniquement si vous avez un compte Amazon ou si vous en avez créé un. Le match sera gratuit à cette condition.
Et voilà, merci beaucoup Sébastien Logeni pour le journal. On se retrouve dans un petit instant. Grâce à vous, nous ferons notamment connaissance avec un milliardaire écolo qui est australien.
Tout à fait.
Nous discutons ce soir dans Un jour dans le monde avec Pierre Vimon, l'ancien ambassadeur, après l'adoption du 6e train de sanctions contre la Russie. Et puis, en deuxième heure, je vous le remets dans l'oreille, vous en avez un peu parlé à l'instant, Sébastien, en cette journée mondiale sans tabac, on va parler de prévention contre le cancer du poumon. Il n'y a pas de dépistage systématique du cancer du poumon en France, et pourtant, les médecins pensent que ça aiderait grandement. Des tests sont d'ailleurs en cours dans de nombreux hôpitaux. L'idée d'un dépistage aussi systématique que le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, celui du côlon. À vos téléphones donc au 01 45 24 7000. On jette un œil sur le ciel avant de se lancer.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Élodie Calac, bonsoir. Des températures en hausse demain, Élodie.
Oui, ça se réchauffera par le sud, Fabienne. L'après-midi, il fera 15 à 19 degrés sur les régions voisines de la Manche, 20 à 26 sur les autres régions du nord et 26 à 32 sur les régions du sud. Et puis le matin, patience, ce sera encore frais, seulement 5 à 10 degrés au nord et 9 à 18 au sud.
Et souvent ensoleillé.
Oui, du soleil du nord-ouest vers l'Orléanais, le bassin parisien, le nord de la Seine jusqu'à l'Alsace. Soleil aussi du sud de l'Aquitaine vers la Méditerranée, avec juste des nuages bas le matin sur les côtes du Languedoc-Roussillon, mais on n'en parlera plus l'après-midi. Et puis du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers l'Auvergne. Et là, ce sera instable avec des averses parfois orageuses le matin. Au fil des heures, ces averses se décaleront vers Rhône-Alpes et le Jura, alors que Poitou-Charentes, la Gironde, le Limousin retrouveront des éclaircies l'après-midi.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup. À tout à l'heure, après 19h.